Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International, émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Philippe Ricard. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ils se retrouvent ce lundi à Bruxelles. Des pays et des institutions vont discuter de l'aide qu'ils et elles vont pouvoir apporter à la Turquie et à la Syrie un mois et demi après une série de séismes meurtriers et dévastateurs. Une conférence des donateurs qui doit permettre à ces deux États de reconstruire ce qui a été détruit. Reconstruire, c'est aussi ce que souhaite faire l'Ukraine, reconstruire notamment ses infrastructures énergétiques, routières et ferroviaires, détruites pour moitié après 13 mois de guerre. Quand et comment lancer ces reconstructions? Quel projet retenir et à quelles conditions? Pour répondre à ces questions, International reçoit Odile Renaud-Bassot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, un établissement créé après la chute du mur de Berlin et qui finance aujourd'hui des projets sur trois continents, Europe, Asie et Afrique. Nous parlerons avec vous des secteurs dans lesquels la BERD investit en priorité. Nous évoquerons aussi quelques sujets d'actualité financière. Actualité particulièrement riche cette semaine. Mais avant de vous entendre, Odile Renaud-Bassot, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané.
Personnellement, je suis dévasté. Quand on passe devant ces nombreux cercueils, on ne peut s'empêcher de pleurer ceux qui sont morts. Ces familles entières complètement anéanties et tellement d'autres meurtries. Nous déplorons d'être des victimes abandonnées au bout de la chaîne du changement climatique.
L'émotion teintée de colère du président du Malawi, pays en partie dévasté le week-end dernier par le cyclone Freddy. Cyclone meurtrier, il a tué plus de 300 personnes dans cet état d'Afrique australe, bilan encore provisoire. Quelle est votre réaction, Odile Renaud-Bassot, à la vue de ces images?
Ça montre que le changement climatique est déjà là et provoque déjà des catastrophes. C'est vrai au Malawi, ça a été vrai dans d'autres pays du monde et qu'il est extrêmement urgent d'accélérer la réponse à ce changement climatique et donc la lutte contre la transit, contre le réchauffement de
est-ce
la planète.
Est-ce que la BERD intervient déjà pour aider à réparer les dégâts causés par les effets du réchauffement climatique, comme elle a pu le faire et comme elle peut le faire aussi après une guerre ou une catastrophe naturelle type séisme?
Si. Alors, on n'intervient pas dans toute la planète. Donc, on intervient dans un certain nombre de pays d'opération. Et vous avez cité les continents et c'est ciblé sur certains pays. Mais s'il y avait ce genre de situation, on interviendrait évidemment pour aider à la reconstruction avec nos modes d'intervention classiques qui sont plus sur le financement du secteur privé en particulier.
Nous allons parler encore du réchauffement climatique dans cette émission, plus précisément de la lutte contre le réchauffement et de ce que la BERD fait en faveur de cette lutte. Mais avant d'aller plus loin, pour celles et pour ceux qui ne connaissent pas bien la BERD, et malgré les quelques éléments qu'on vient de donner depuis le début de l'émission, que fait-elle et à quoi sert-elle?
Donc c'est une banque qui a été créée après la chute du mur de Berlin en 91, qui a pour mandat de favoriser la transition des économies de l'ex-Union soviétique et du bloc communiste vers l'économie de marché. Donc c'est le mandat d'origine, avec dès l'origine une focalisation importante sur le financement du secteur privé. Donc l'idée de faciliter l'ouverture de ces économies et la transformation de ces économies, leur développement. Progressivement, notre mandat s'est élargi à d'autres champs géographiques, la Turquie, et on y reviendra peut-être, mais aussi le nord de l'Afrique, avec les pays de la Méditerranée, l'Égypte, la Jordanie. Et donc, aujourd'hui, on a un mandat dans 38 pays d'opération et avec un financement du développement focalisé sur le secteur privé.
La BERD, Odile Renaud-Bassot, vous en avez pris la présidence il y a près de 2 ans et demi maintenant. Une nouvelle étape dans votre carrière, passée principalement dans des institutions publiques. Retour sur votre riche parcours avec Oumi Diallo et Emmanuel Marty.
Un mois avant la COP27, deuxième édition du Forum égyptien pour la coopération internationale. 1500 personnalités africaines sont réunies autour de la transition énergétique du continent. Devant le président égyptien Al-Sisi, vous réaffirmez les objectifs de la BERD.
L'Afrique, l'Égypte en particulier, est bénie par d'extraordinaires ressources en énergie renouvelable.
Je sais que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes vraiment déterminés à faire de notre mieux pour soutenir l'exploitation de ces ressources.
De votre enfance passée en Algérie, Odile Renaud-Basso, vous conservez un lien étroit avec les pays en développement. Née en 1965 d'un père ingénieur et d'une mère professeure de français, vous êtes diplômée de Sciences Po, de l'ENA et d'Harvard et confessez pourtant
« Ce n'était pas le rêve de ma vie. Durant ma scolarité, j'aimais faire du théâtre, de la musique. J'étais une élève moyenne. J'ai d'ailleurs eu le bac ric-rac. C'est en prépa que je me suis mise à travailler. »
Travailler sérieusement sans jamais vous prendre au sérieux, serait-ce votre secret ? En 2016, vous devenez la première femme à la tête du Trésor, l'une des instances les plus puissantes du ministère français des Finances. 4 ans plus tard, vous êtes élue à la présidence de la BERD. Basée à Londres, l'organisation créée après la chute du mur de Berlin pour la reconstruction du bloc de l'Est opère aujourd'hui dans une trentaine d'États, de l'Europe à l'Asie centrale. Vous rejoignez ainsi 2 autres femmes aux commandes d'institutions européennes, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne à Bruxelles, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne à Francfort.
Christine Lagarde est aussi une femme extrêmement inspirante pour les femmes, et elle est très rayonnante et très, très inspirante aujourd'hui comme personnage féminin avec des grandes responsabilités.
Issue de la première génération de femmes à élever des enfants tout en travaillant dans la haute administration, vous menez carrière et vie familiale avec l'assurance discrète de celles qui n'ont plus rien à prouver. Et c'est finalement peut-être ça, votre secret.
C'est ça votre secret, une assurance discrète, comme le dit Oumi Diallo, dit le Renaud Basso.
Je ne sais pas, difficile à dire. Je ne saurais pas vous dire.
Venons-en à l'actualité. La Banque Centrale Européenne a de nouveau relevé ses taux ce jeudi. Une hausse d'un demi-point, une mesure prise pour ralentir l'inflation. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ?
C'est une décision qui était attendue. Alors évidemment, elle intervient dans un contexte un peu bouleversé par les récents développements sur le secteur bancaire, notamment aux États-Unis, avec la défaillance de la Silicon Valley Bank, avec la situation de Crédit Suisse. Mais c'est une situation, c'est une évolution qui, d'augmentation des taux qui était attendue et qui correspond à un niveau d'inflation et à la volonté de la BCE d'appliquer, de mettre en œuvre son mandat qui est la lutte contre l'inflation. Et je crois que aujourd'hui, voilà, c'est nécessaire de montrer les signaux et de mettre en œuvre les mesures pour ralentir ce qu'on voit quand même comme une hausse des prix, non seulement en nominal, mais aussi de l'inflation sous-jacente.
Philippe Ricard.
Est-ce que ces hausses des taux, que ce soit au sein de la zone euro ou en dehors, perturbent l'activité de la BERD ? Comment ça fonctionne, la BERD, de ce point de vue-là ? Vous êtes gêné par cette envolée des taux, disons ?
Non, pour nous, pas directement. Alors, ça impacte évidemment nos conditions de financement. Les taux auxquels on emprunte augmentent, mais les taux auxquels on prête augmentent aussi. Et donc, comme on n'est pas une banque de dépôt, mais qu'on est financé, on se finance sur les marchés et qu'on reprête en prenant en compte notre coût de financement, ça n'a pas d'effet direct sur notre situation financière.
Ça complique un peu le montage de certaines opérations parce que leur cours renchérit, disons.
Effectivement, le niveau de financement des pays et des projets augmente. Donc là, l'argent est moins facile, le coût est plus élevé. Mais on ne voit pas aujourd'hui d'effet. Alors, pour notre situation financière, ça peut poser, par contre, qu'on voit effectivement, c'est la situation, l'évolution des temps des règles, conditions de financement, peuvent poser des problèmes à certains pays dont le niveau de dette est très élevé. Pas vraiment dans les pays dans lesquels on intervient directement, mais on a vu des pays comme le Sri Lanka ou en Afrique subsaharienne, des pays avoir des difficultés de financement ou faire défaut sur leurs dettes à cause de ces conditions d'accès au financement de façon générale.
Vos taux ont augmenté, dites-vous, Odile Renaud-Basso. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter dans les mois qui viennent ? C'est quelque chose que vous craignez ?
Ils suivent l'évolution des marchés. Je pense qu'on est quand même encore dans un mouvement de continuité de hausse des taux.
Compte tenu de cette hausse des taux, compte tenu de l'inflation également, est-ce que les entreprises à qui vous prêtez de l'argent, que vous financez, ont du mal à rembourser,
Non, on ne voit pas d'augmentation de façon générale. Alors, il y a la situation de l'Ukraine qui est particulière dans notre bilan, mais d'une façon générale, on ne voit pas d'augmentation des défauts de paiement de nos clients. Il y a des pays qui sont dans des situations plus... Certains de nos pays sont dans des situations plus fragiles, mais aujourd'hui, on a une stabilité dans à l'exception de la situation ukrainienne, qui est quand même tout à fait particulière, on n'a pas d'augmentation des défauts de paiement. Mais on est toujours vigilant et on suit la situation de très près dans les différents pays dans lesquels on intervient, parce que certains sont, on connaît quand même des difficultés macroéconomiques importantes.
Dans l'actualité également, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, il y a une semaine difficile pour le secteur bancaire en Europe, touchée par la crise qui a commencé aux États-Unis. Semaine difficile pour une banque en particulier, Crédit Suisse. Son action s'est effondrée, moins 26% en 5 jours. Elle a perdu 8% ce vendredi, malgré l'intervention de la Banque nationale suisse. Au-delà de Crédit Suisse, les actions de plusieurs grands établissements ont fortement baissé, moins 15% pour BNP Paribas, moins 20% pour l'allemande Commerzbank. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, répondait la présidente de la BCE, Christine Lagarde, c'était jeudi dernier.
Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec de solides positions en capital et en liquidité. Dans tous les cas, nos outils nous permettent de fournir un soutien en liquidité au système financier de la zone euro, si nécessaire, et pour préserver la transition en douceur de la politique monétaire.
Alors, pas d'inquiétude a priori. Cela dit, la Banque Centrale Européenne a réuni une deuxième fois ce vendredi, deuxième fois de la semaine, son organe de surveillance pour discuter du secteur bancaire. Est-ce que vous êtes inquiète de ce qui se passe ?
Non, je ne suis pas inquiète parce que je pense que les deux banques qui ont connu des difficultés étaient dans des situations tout à fait particulières. La Silicon Valley Bank n'appliquait pas les règles de Bâle, était une banque qui avait connu une très forte augmentation de ses dépôts et vraiment était très liée à un secteur, donc une situation tout à fait spécifique.
Celui de la technologie. Hein.
Celui de la technologie, du capital risque. Et donc, s'est retrouvée face à une dépréciation de ses obligations et une perte de confiance, mais vraiment liée à un environnement tout à fait particulier. Et la situation du Crédit Suisse, c'est un peu pareil. Alors, c'est des difficultés, une taille d'établissement et des difficultés de nature différente. Mais c'est quand même un établissement qui a depuis longtemps un certain nombre de difficultés. Donc, je crois que j'ai pas d'inquiétude sur la situation des banques dans la zone euro.
On a quand même le sentiment qu'il y a comme le spectre d'une crise financière qui est ressurgie tout d'un coup. Vous qui étiez, je crois, à Bruxelles au début de la crise financière de 2007-2008, ça vous rappelle un peu cette période. Quelle est la différence aujourd'hui avec l'époque d'il y a une quinzaine d'années maintenant déjà ?
La différence, je pense que suite à la crise de 2008, il y a quand même eu des mesures extrêmement importantes de renforcement des bilans bancaires et des règles en matière de capitaux propres, du niveau d'exigence en matière de fonds propres, de ratio de levier, de liquidité, qui ont renforcé très fortement le secteur bancaire. Et donc, on part d'une situation qui est beaucoup plus forte. Et on a d'ailleurs vu la résilience du secteur bancaire européen face à la crise du Covid. Dans les derniers mois, l'impact de la guerre en Ukraine et la crise, par exemple, de l'énergie, cette poussée d'inflation, etc. Donc, je pense qu'on part d'une situation qui est fondamentalement différente. Et que, par ailleurs, dans la... l'anticipation des difficultés, je pense la réactivité est aussi beaucoup plus rapide, je pense bien meilleure qu'elle a été en 2008. On a vu comment les autorités américaines, alors il peut y avoir beaucoup de débats sur les décisions prises, mais comment les autorités américaines ont très rapidement réagi à la situation de Silicon Valley Bank.
Sans la laisser tomber, comment, au contraire.
En dérogeant à son cadre principal, je dirais, mais aussi comment les autorités suisses ont réagi à la situation de Crédit Suisse. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est quelque chose qu'on avait vu au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tiré les leçons, non seulement en matière de réglementation, et donc je pense qu'on part d'une situation meilleure, mais aussi en termes de réactivité, d'anticipation des difficultés par rapport à une crise. En 2008, il y avait eu, vous en rappelez, au moment de la crise de la zone euro, quelques années après, du temps pour définir les bonnes réponses. Et je pense que là, la réactivité globale des autorités, des institutions est beaucoup plus forte.
Venons-en maintenant à la Tunisie. Il y a près de deux semaines, la Banque mondiale a suspendu son partenariat avec ce pays en cause les déclarations du président tunisien, Kais Saied, contre les migrants venus d'Afrique subsaharienne. Il disait « il y a des hordes de migrants qui sont source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il y a une volonté de faire de la Tunisie un pays d'Afrique qui n'est pas un pays, un membre du monde arabe et islamique ». Voilà ce que disait Kais Saied. Ces déclarations ont entraîné dans le pays une vague de violence contre ces migrants. C'est tout ça qui a motivé la décision de la Banque mondiale. Et la Baird, maintenant, tout ça, compte tenu de cette situation, la Baird qui travaille en Tunisie, qui finance des projets, est-ce qu'elle va continuer à travailler avec la Tunisie ?
Alors, c'est un pays, la Tunisie est un pays dans lequel, effectivement, on a beaucoup investi, qu'on a accompagné l'année dernière avec des financements très importants, d'un niveau très, très élevé par rapport au plus élevé que d'habitude à cause des difficultés économiques du pays. On les a, par exemple, aidés, financés un prêt d'achat pour des céréales face à la crise alimentaire, à l'augmentation du prix des céréales.
Donc là, c'est secteur public et privé. Hein. Ce n'est pas que le secteur privé en Tunisie.
Non, on a fait des financement pour le secteur public à cause de la situation de crise. On travaille pas mal avec des entreprises publiques, notamment du secteur de l'électricité, parce que la Tunisie a un secteur public extrêmement important et qui a vraiment besoin de réformes. Et donc, on travaille souvent en lien avec le FMI et dans le cadre d'un programme avec le FMI pour transformer le secteur public, le rendre plus efficace, plus performant, etc.
Est-ce que vous continuez à travailler avec la Tunisie ?
À ce stade, on n'a pas interrompu et continue de travailler avec la Tunisie. Évidemment, on suit de très près l'évolution de la situation et l'évolution de la situation politique. Il y a un certain nombre de signaux qui ont généré de l'inquiétude.
Mais pourquoi décidez-vous de continuer à travailler avec la Tunisie ?
Parce que donc c'est des choix. C'est une situation qui peut évoluer. Hein. Donc on regarde de très près ce qui se passe, etc. On pense que, et notamment si le pays arrive à boucler son programme avec le FMI, ce qui est en cours de discussion.
Ce sont des discussions qui patinent depuis plusieurs mois maintenant.
Voilà, mais qui ont quand même avancé, donc qui devrait être finalisé. Si ce programme est finalisé, je pense que c'est important pour la stabilité du pays d'accompagner un certain nombre de réformes et d'apporter un soutien pour le bénéfice des populations. Donc c'est après, on verra comment la situation politique évolue, on prend en compte un certain nombre de ces éléments, mais à ce stade, on considère que si on peut continuer, et notamment dans le cadre de ce programme FMI, à apporter un soutien aux populations et aux entreprises de Tunisie, ça sera important, positif pour la stabilité du pays.
Au-delà de la stabilité du pays, on comprend bien le souci de la Baird de vouloir continuer ces projets. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ? Vous dites que la situation peut évoluer, mais quelle évolution pourrait...
Une dégradation très forte de la situation politique. Et c'est aussi... le fait de continuer à intervenir permet aussi d'engager un dialogue avec le gouvernement et le président, les autorités, sur les évolutions et les signaux qui peuvent nous paraître préoccupants dans ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie.
Et vous avez le sentiment qu'il y a un espoir possible, parce que là, pour l'instant, ces derniers mois, c'était quand même un durcissement de plus en plus autoritaire, en fait, du régime. Qu'est-ce qui vous laisse penser que... on peut continuer à essayer de stabiliser le pays en espérant une évolution dans le bon sens. Tous les signaux sont contraires.
Il y a des signaux inquiétants. Mmh. Il y a aussi des éléments positifs dans un certain nombre de décisions prises par le gouvernement. Et comme je disais, je pense qu'à un moment... continuer à apporter un soutien aux entreprises du secteur privé, mais aussi la transformation économique du pays peut être un élément important pour soutenir les populations dans ces moments difficiles.
Pour compléter ce que dit Philippe Ricard, la Baird a un mandat politique. Elle n'aide que les pays qui s'engagent à respecter et qui mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste. Ce sont des principes qui sont malmenés en Tunisie, des principes qui sont malmenés dans d'autres pays hein, avec lesquels la Baird travaille, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, par exemple. Des critiques avaient été formulées il y a plusieurs années déjà envers la Baird, hein, contre la Baird, pour avoir financé des projets dans des pays non démocratiques ou autoritaires. Est-ce que vous comprenez ces critiques ?
Mais c'est toujours un débat, oui, je comprends qu'il y ait des critiques, je comprends qu'on se pose des questions. Il y a des situations, quand la situation vraiment... Il y a des cas où la Baird, par exemple en Ouzbékistan, avait cessé pendant plus de 10 ans d'intervenir. Tout financement avait été suspendu en Ouzbékistan entre 2003 et 2016, parce qu'avec des cas de torture, des cas vraiment d'une situation politique extrêmement dégradée. Un nouveau président est arrivé avec une volonté de réforme et une certaine ouverture, donc des éléments, un contexte politique nouveau. Et donc, ça nous a permis de réintervenir. Donc, on a vraiment pris en compte notre mandat en n'ayant pas pour chaque pays une analyse de la situation politique et en ajustant aussi notre mode d'intervention à l'évolution de cette situation politique. Par exemple, dans la situation de la Biélorussie, il y a un an et deux ans, on avait un moment complètement suspendu tout financement dans le secteur privé, le secteur public, en se focalisant uniquement sur le secteur privé. Et puis, on a aujourd'hui arrêté tout financement en Biélorussie. Donc, on ajuste et en concertation
en
avec nos amis.
Et en Russie aussi.
Et en Russie aussi, depuis 2014.
La BERD finance des projets dans une trentaine de pays. Elle a étendu son aire d'activité depuis le début des années 2000, en Afrique notamment, vous l'avez dit, Égypte, Tunisie, Maroc, on en a parlé. Est-ce qu'elle va continuer à le faire dans les années qui viennent et est-ce que la BERD va travailler directement avec d'autres pays africains? Est-ce que ça fait partie de vos
Alors,
projets?
Alors, la BERD discute depuis, envisage de travailler dans des pays d'Afrique subsaharienne. Il y a une décision de principe qui a été prise par nos actionnaires l'année dernière, donc qui ont affirmé leur intérêt stratégique et leur volonté d'intervenir dans certains pays d'Afrique subsaharienne.
Alors, pas les actionnaires de la BERD sont 69 pays.
Plus 71 pays.
Plus l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Donc exactement. 69 pays plus l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement.
Exactement.
Voilà, donc,
et donc il y a une volonté de principe. La décision doit être mise en œuvre et nos actionnaires doivent décider du calendrier de mise en œuvre de cette décision. On y était presque l'année dernière et puis est intervenue la guerre en Ukraine qui représentait un très gros choc pour la banque et une priorité nouvelle et un contexte difficile.
Ce sera pour quand alors?
Et donc on en reparle cette année à notre assemblée annuelle au mois de mai.
Donc Afrique subsaharienne?
Possiblement. Alors, ensuite, il faut que les pays deviennent membres de la BERD. Il y a tout un processus qui doit être mis en place.
Ça peut prendre combien de temps?
Ça peut prendre un an et demi de mise en pour arriver vraiment de façon opérationnelle. Ça serait une intervention dans un certain nombre de pays limités, progressifs. Donc, on cible quelques pays, pas toute l'Afrique subsaharienne, mais quelques pays.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire.
Qui sont proches, qui sont assez liés économiquement avec l'Afrique du Nord. Effectivement, la région dont vous parlez.
Philippe Ricard.
La BERD est vraiment née de l'effondrement du mur de Berlin, le démantèlement de l'URSS. Maintenant qu'il y a la guerre sur le continent, le retour de la guerre sur le continent européen en raison de la guerre en Ukraine, l'invasion russe, qu'est-ce que ça change en fait pour la BERD, pour la vocation de la BERD? On est maintenant dans un continent qui, à l'époque du mur de Berlin, pensait que finalement tous les pays du continent se rapprocheraient, la Russie de l'Ouest, etc. Et là, ça change totalement la donne. Ça change des choses pour vous, en fait, fondamentalement?
Il y a eu un premier gros changement qui est le fait que depuis 2014, alors que la Russie était le premier pays d'intervention de la BERD, qui représentait des montants d'investissement extrêmement importants, près d'un quart de nos investissements étaient en Russie. On a suspendu tout investissement en Russie à partir de 2014 et on a formalisé cette décision pour la Russie et la Biélorussie en début d'année 2022, suite au début de la guerre en Ukraine. Là, évidemment, c'est très nouveau pour nous de travailler dans un pays en guerre. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait et qui est quand même tout à fait particulier. Et effectivement, alors que la banque a été créée dans un moment où il y avait la fin de la guerre froide et la fin des tensions entre un rapprochement entre la Russie et l'Occident, on est maintenant dans une situation très très différente, avec un renouvellement des tensions. Et on travaille dans beaucoup de pays qui sont vraiment à la frontière entre qui étaient des pays de l'ex-bloc communiste et qui aujourd'hui évoluent. Certains veulent rejoindre l'Union européenne.
Ce qui dérange Moscou, d'ailleurs.
Je pense par exemple à la Moldavie, à la Géorgie, il y a évidemment l'Ukraine, mais aussi la Géorgie, la Moldavie. Et puis on travaille aussi dans les pays d'Asie centrale qui restent souvent très proche de la Russie, avec des liens, des traités, des liens de soutien, des accords de coopération militaire, mais qui en même temps sont demandeurs d'investissement d'institutions comme la BERD, qui développent l'économie de marché, le secteur privé, etc.
Et étant donné la situation, finalement, maintenant, la confrontation avec la Russie, est-ce qu'il y a une réflexion sur ce qu'on a loupé, en fait, pendant cette période, qui fait que, finalement, la Russie, à qui on avait tendu pas mal de perches pour qu'elle se rapproche, en fait, de l'Europe occidentale et des Occidentaux, en fait, s'est détournée de cette voie. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans le comportement, qui peut expliquer le comportement de Vladimir Poutine en Ukraine, par exemple ?
Ben, déjà, ça montre que ce qu'on pensait fondamental, qui était la convergence vers l'économie de marché, le développement des échanges, allait favoriser une convergence politique. Ça n'a pas eu lieu. Après, comment expliquer ce retour du nationalisme extrêmement et de la... une certaine volonté d'expansion, un retour à la Grande Russie, etc. Je pense que c'est beaucoup lié à des facteurs internes propres à la Russie, aux dynamiques politiques en Russie. Mais on pensait que développer les échanges, ouvrir le pays économiquement permettrait d'éviter ce type de situation et ça n'a pas été le cas.
Ça a été une forme d'erreur quelque part ou...
Je ne pense pas que c'est une forme d'erreur. Je pense que c'est... peut-être une forme de naïveté, mais je pense que c'était une bonne chose d'essayer de faire ça. Après, il y a peut-être eu aussi une sous-estimation, et ce qu'on voit aujourd'hui, quand on voit le retour de balancier sur le plan militaire et l'importance de... qu'on réalise à nouveau d'avoir des équipements, etc. Il y a eu une forme, je pense, de avec toute la thématique de la fin de l'histoire, etc., une forme de naïveté sur le fait que les tensions géopolitiques qui ont été là pendant longtemps pourraient revenir, et de fait reviennent fortement.
La guerre en Ukraine, continuons d'en parler. Parlons plutôt maintenant du processus de reconstruction du pays. Les combats continuent, mais des discussions ont déjà commencé sur ce sujet. C'était le cas à Paris en décembre dernier, par exemple. Voici ce qu'en disait alors le ministre ukrainien de l'énergie.
Nous pouvons et nous devons maintenant penser à la reconstruction future, car nous allons gagner cette guerre, c'est certain. Et aujourd'hui, pendant la guerre, nous devons tout préparer pour le début de la reconstruction dès le premier jour de la victoire, pour ne pas avoir à attendre lorsque nous aurons gagné. Préparons toute la documentation, toutes les licences nécessaires, les permissions, tout ce que nous pouvons faire dès maintenant. Et ainsi, le jour de la victoire, nous pourrons commencer le vrai travail sur le terrain.
La Baird a-t-elle déjà commencé à recevoir, à étudier des projets, voire même à les financer ?
Alors, on finance aujourd'hui beaucoup de projets en Ukraine qui sont des projets de reconstruction d'urgence. Donc, ce n'est pas la reconstruction dans un cadre de paix où tout est stabilisé, etc. Mais en fait, une grande partie des financements qu'on accorde en Ukraine aujourd'hui, c'est déjà une forme de reconstruction. Parce que, par exemple, on travaille beaucoup avec l'entreprise énergétique qui gère le réseau électrique et qui passe son temps à reconstruire des infrastructures qui ont été détruites par les bombardements... par la Russie. Et donc, ce qu'on fait, c'est déjà ça. On travaille aussi avec les municipalités, par exemple, pour reconstruire un certain nombre de choses qui ont été détruites. Donc, on n'est pas dans une approche très grande, comment dire, un grand plan de reconstruction qui serait d'ores et déjà établi, mais plutôt dans les réparations d'urgence.
D'urgence sur les infrastructures, notamment.
Hein. Exactement.
Philippe Ricard.
Et en fait, comment vous jaugez la résilience ukrainienne ? Parce qu'on a bien vu que cet hiver, Vladimir Poutine avait comme stratégie de bombarder un maximum d'infrastructures civiles, justement pour mettre à genoux la population, en la privant de chauffage, d'électricité. Finalement, j'ai l'impression qu'il a un peu raté son coup. Comment vous jugez la capacité de résistance des Ukrainiens, au fond, cette résilience ? Est-ce que vous êtes impressionné ? Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement malgré tout, toujours ou pas ?
Non, moi je suis extrêmement impressionnée de la résilience. On l'a vu sur le plan militaire et je pense que on a tous été très impressionnés de la capacité de résistance militaire. Au tout début de la guerre, c'était moins évident, c'était pas une évidence. Et sur le plan de la population civile, c'est aussi extrêmement impressionnant. J'étais à Kiev au mois d'octobre, et donc il y avait déjà des bombardements, etc. Et donc, vous êtes dans une réunion de travail avec la mairie de Kiev, par exemple, et il y a des sirènes, on vous dit, allez, il faut aller dans les shelters. Donc, il y a des sous-sols dans les caves, en fait, vous allez, et on continue, les gens continuent à travailler normalement, comme si de rien n'était, quoi. Et c'est vraiment... Donc, avec un calme et une une concentration sur ce qu'il y a à faire qui est extrêmement impressionnante. Et de la même façon, la capacité de reconstruction dans les secteurs publics, dans le secteur public, hein, par, notamment des réseaux électriques, est extrêmement impressionnante. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement organisés. Et ils ont réussi à contrer ces attaques quand même russes qui visaient à décourager la population et à les faire fuir par blackout, pas de chauffage, pas d'électricité, etc. Et la capacité de rebond et de réactivité des entreprises publiques et des autorités ukrainiennes est extrêmement impressionnante. Donc c'est vraiment, et je pense que ça va durer.
Vous pensez que ça peut durer? Il n'y a pas un épuisement progressif
Je pense que ça a un coût humain important et un coût, c'est très dur pour les populations, mais je pense que ça va durer, mais ça nécessite un très fort soutien financier, à la fois sur le plan budgétaire, pour aider le gouvernement à continuer à fonctionner, et sur le plan...
Il vit sous perfusion, le gouvernement
espagnol. Il vit sous perfusion, exactement, et c'est fondamental pour leur... C'est un peu, il y a le combat militaire, mais aussi une forme de guerre économique, où il faut apporter un... Pour que l'Ukraine puisse continuer à soutenir la guerre, il faut qu'il puisse être soutenu sur le plan financier, pour assurer le fonctionnement du gouvernement, pouvoir payer les fonctionnaires, etc., mais aussi ce qu'on fait nous, c'est-à-dire le financement de l'économie pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner, que les banques fonctionnent, qu'il puisse y avoir des plantations dans le secteur agricole, des récoltes, etc. Parce que tout ça permet de générer des revenus qui vont permettre au gouvernement de continuer à fonctionner là encore.
Ça représente combien quelle somme pour la Berne?
Pour nous, alors on a fait 1,7 milliard d'investissements l'année dernière. Ce qui représente en 2022, ce qui représente alors qu'on faisait avant la guerre quelque chose comme 1 milliard d'investissements au mieux par an.
D'autres organismes, d'autres institutions vont jouer un rôle, hein, comme l'Union européenne dans cette reconstruction de l'Ukraine. Comment l'action de la Baird va-t-elle s'articuler avec celle de l'Union européenne, sachant que l'Union européenne, on le disait tout à l'heure, c'est l'un de vos actionnaires?
Eh bien, on est un des outils, d'outils de mise en œuvre, partenaire financier de l'Union européenne pour déployer des financements communautaires. Et une partie des financements qu'on a fait en Ukraine ont été faits avec des garanties de l'Union européenne qui permettent de couvrir une partie du risque en cas de défaut. Donc on est vraiment un vecteur pour l'Union européenne comme pour d'autres bailleurs. Hein. On a joué un rôle, les Américains nous ont donné aussi des ressources très importantes cette année sous forme de dons pour couvrir une partie du risque en Ukraine. Et donc on est un vecteur très important pour les différents bailleurs de fonds, et l'Union européenne est un bailleur de fonds, pour canaliser des financements vers le secteur privé. Et on travaille aussi très étroitement avec l'Union européenne sur toutes les questions des conditions, des réformes que le pays, que l'Ukraine doit mettre en œuvre pour améliorer sa gouvernance, sa performance, etc.
La lutte contre la corruption, j'imagine, c'est là où vous vouliez en venir. Ça, on est où d'ailleurs? Il y a eu des annonces assez concrètes, hein, de la part du gouvernement dirigé par... chef d'État Zelensky, comment ça se passe? Vous croyez vraiment qu'il y a des progrès réels? Parce que ça reste quand même un énorme problème.
Alors, c'était un énorme problème avant la guerre. Je pense que j'y viens. C'était un problème très important avant la guerre. Ça reste un sujet de préoccupation. On a vu les décisions que le président et le Premier ministre ont pris récemment d'évincer un certain nombre de dirigeants au sein même du gouvernement ou de l'administration pour des raisons liées à la corruption. Donc ça montre qu'il y a quand même, il reste des sujets. Mais le gouvernement, le président a pris des mesures extrêmement importantes qui étaient attendues d'ailleurs, qui étaient déjà sur la table avant la guerre, mais qu'il a mis en œuvre dans le contexte de la guerre pour renforcer la Cour constitutionnelle, renforcer les instances de lutte anticorruption, fermer certaines cours administratives qui étaient très corrompues et très réputées pour être corrompues, et donc vraiment des mesures assez structurantes en matière de lutte contre la corruption. De notre côté, une des grandes priorités, c'est la gouvernance des entreprises publiques, parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises publiques, et donc d'assurer que la gouvernance est transparente, avec des administrateurs compétents, des dirigeants compétents, etc. Et c'est un domaine sur lequel on continue à travailler main dans la main avec le gouvernement, et pour nous, une grande priorité.
La guerre, apparemment, a également beaucoup affaibli les positions des oligarques. Est-ce que c'est un avantage, précisément, pour pousser les feux contre la corruption? qu'il y ait moins d'oligarques, ça peut aider. Ouais.
Clairement.
Et vous sentez
clairement.
Que c'est un effet de court terme, c'est assez conjoncturel ou c'est maintenant structurel? C'est l'affaiblissement des oligarques.
Ça dépend des personnes et ça dépend des secteurs. Donc c'est pas complètement. Ben non, mais il y a des oligarques plus ou moins qui ont été impactés plus ou moins négativement. Mmh. Et donc, mais effectivement, je pense que la désoligarchisation de l'économie ukrainienne est un élément fondamental dans la durée pour meilleure gouvernance et une efficacité de la lutte anticorruption.
Parlons de la Russie quelques instants. Vous le disiez tout à l'heure, la BRD a suspendu ses financements depuis 2014, officiellement depuis avril dernier, 2022. Quand la guerre prendra fin, est-ce que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a vocation à travailler à nouveau avec la Russie telle qu'elle existe aujourd'hui ?
C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre parce que ce n'est pas du tout sur la table aujourd'hui, mais tout dépendra des conditions de la fin de la guerre et de la négociation d'un accord de paix.
Les Occidentaux, l'Union européenne notamment, ont pris d'importantes sanctions contre la Russie. Il y a eu 10 vagues, 10 paquets de sanctions. De votre point de vue, est-ce que ces sanctions ont atteint leur objectif qui initialement était de faire s'effondrer l'économie russe ?
Alors, l'effet, ces sanctions ont un effet, parce qu'il y a un effet d'étouffement de l'économie russe. On a vu que l'économie russe a quand même été en récession.
Moins 2,2% de récession.
Voilà, donc la récession était peut-être au début, n'était pas si forte que ça, mais quand même, on anticipe une récession l'année prochaine. Donc je pense que l'effet des sanctions...
La croissance, le FMI parle de croissance.
Alors nos propres prévisions restent quand même plutôt un niveau quand même très plutôt négatif. Mais... Donc il y a quand même un impact négatif et je pense que dans la durée, les sanctions vont avoir un effet. Enfin, c'est un effet qui se mesure dans la durée, qui n'est pas forcément immédiat. Et donc c'est puisque par exemple un certain nombre de biens technologiques, d'exportation de matériaux technologiques sont interdits, ça a un effet sur la capacité de réparer les avions, par exemple dans le secteur aéronautique ou dans des secteurs de haute technologie. Ce qu'on constate en même temps, c'est qu'il peut y avoir des circuits de contournement des sanctions. Nous, en étudiant les flux commerciaux, on voit qu'il y a un certain nombre de flux d'exportation qui passent par d'autres pays.
La Turquie, vous
disiez, il peut y avoir la Turquie, des pays d'Asie centrale, etc. L'Arménie. Donc il peut y avoir Arménie, Asie centrale. Donc il peut y avoir des effets de relocalisation. Je pense aussi que l'impact des décisions prises en matière d'énergie, qui a été progressif au cours de l'année 2022, va commencer aussi à porter ses fruits et à réduire les recettes d'exportation de la Russie.
Est-ce qu'il y aura de nouvelles sanctions à prendre, d'après vous, et lesquelles ? Et est-ce que l'Union européenne est en mesure de prendre de nouvelles sanctions ? Parce qu'on sent que ça tiraille pas mal, notamment avec le cas hongrois qui maintenant met son veto quasiment à de nouvelles sanctions.
Je pense qu'il y a toujours la capacité de prendre de nouvelles sanctions. Après, c'est une dynamique politique de discussion au sein de l'Union européenne. Effectivement, la Hongrie a été un élément de freinage. Et je pense qu'il y a d'autres domaines qui pourraient faire l'objet de sanctions. Cibler d'autres personnes ou élargir le spectre des sanctions actuelles.
Cela fait un mois et demi qu'un puissant séisme a touché, même une série de puissants séismes, a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Des séismes qui ont tué un peu plus de 50 000 personnes selon le dernier bilan et qui ont détruit des centaines de bâtiments. Une conférence des donateurs pour la reconstruction doit se tenir ce lundi 20 mars à Bruxelles à l'initiative de l'Union européenne. Que va faire la BERD pour venir en aide à ces pays? Et d'ailleurs, va-t-elle venir en aide à ces deux pays et pas simplement à la Turquie?
Alors, on n'intervient pas en Syrie, donc on peut pas intervenir, on ne pourra rien faire dans ce
pays. Pour des raisons politiques.
Pour des raisons, ça ne fait pas partie des pays d'opération et la situation aujourd'hui ne nous permettrait pas d'intervenir. Mais, pour la Turquie, on a d'ores et déjà décidé d'octroyer des lignes de crédit aux banques, 600 millions d'euros, ça a été adopté par notre conseil d'administration la semaine dernière, pour qu'elles apportent des soutiens d'urgence à leurs clients dans la zone touchée par le séisme. Et ça peut être des PME, des toutes petites entreprises individuelles, etc. Donc ça, c'est d'ores et déjà en place et on doit mettre en œuvre ces accords avec les banques très rapidement et ça correspond à une demande qu'elles nous ont faite. Plus globalement, on pense qu'on peut intervenir. On a évalué une capacité de financement, enfin de capacité d'intervention de 1,5 milliard sur 2 ans, 1,5 milliard d'euros sur 2 ans. cette intervention auprès des banques, mais aussi potentiellement dans des infrastructures publiques, par exemple réparer le réseau de chemin de fer, financer des municipalités qui ont été touchées, qui ont des besoins d'investissement pour du logement, des infrastructures publiques, et soutenir nos clients dans le secteur privé qui peuvent être affectés. Donc on est disposé, on travaille avec l'ensemble de ses partenaires pour voir ce qui est le plus immédiatement nécessaire.
Est-ce que vous ne craignez pas que cette conférence des donateurs, donc de lundi, permette au président Erdogan, à quelques semaines des élections, de récupérer un peu ces dons, ces prêts, etc., parce que sa gestion du séisme et du sauvetage, des secours, jusqu'ici, ont été quand même extrêmement controversés. Il a perdu beaucoup de points, manifestement, à cause de ça. Est-ce que vous pensez que ça peut lui permettre, malheureusement, quelque part, de redorer son blason?
Je pense que la priorité...
C'est une perspective électorale, hein, une élection.
Bien sûr, 14 mai, premier tour.
Voilà. Je pense que la priorité et l'objectif de cette conférence des donateurs, c'est vraiment d'avoir une aide qui arrive aux populations, parce que l'impact du séisme est quand même extrêmement important. C'est une région intensément peuplée, qui avait déjà des difficultés. C'est une région où il y avait beaucoup de réfugiés, etc. Donc, il y avait déjà... C'est économiquement fragile. Et donc, je pense que la priorité doit être celle-là. Après, la dynamique de l'élection présidentielle, on verra. Mais je pense que c'est quand même de la responsabilité de la communauté internationale d'apporter un soutien aux populations avant tout.
On va voir d'ailleurs quelques images de ces destructions, des centaines de maisons, d'immeubles détruits par ces séismes, notamment à Antioche, ville du sud de la Turquie, où les pelleteuses déblaient les gravats, ce qui pose d'ailleurs, vous allez le voir, des problèmes environnementaux. C'est un sujet de notre partenaire France 2. Il est signé Diane Schlinger et Francis Simouès.
Le brouhaha de la foule a disparu. Il reste un bruit assourdissant, celui des tractopelles à chaque coin de rue. Une ville en train d'être mise à terre, pierre par pierre. À 24 ans, ce jeune homme s'est porté volontaire pour aider à raser la cité millénaire. Mais chaque coup de pelle est une épreuve.
À chaque fois qu'on creuse, on a peur de tomber sur un corps humain. C'est vraiment dur à vivre pour nous.
À Antioche, 10% à peine des 200 000 habitants ont décidé de rester. Dans la vieille ville, autrefois touristique, on ne peut toujours pas marcher dans les rues. Le temps est comme suspendu. À la sortie d'Antioche, les files de camions s'allongent. La Turquie se retrouve avec plus de 100 millions de tonnes de décombres sur les bras. Ils sont vidés en pleine nature dans un nuage de poussière, malgré les risques sanitaires et écologiques.
Voilà, des décombres, des gravats qui posent des problèmes environnementaux. La reconstruction peut aussi poser ce genre de problème. Comment prenez-vous en compte ce paramètre dans les projets que vous financez, les projets de reconstruction que vous êtes amené à financer, dit le Renaud Basso?
Alors évidemment, dans les projets, on mettra des plus hauts standards environnementaux dans les projets de reconstruction. C'est vrai en Turquie, c'est vrai aussi en Ukraine. Et je pense qu'en Ukraine, il y a cette volonté très clairement affichée du gouvernement du président de reconstruire mieux, c'est-à-dire d'avoir vraiment, de transformer le pays aussi pour le rendre plus vert, moins pollué, des énergies plus propres, etc. Donc, et dans les deux cas, ça sera une priorité pour nous en matière de reconstruction.
La BERD soutient des projets qui contribuent à la sauvegarde de l'environnement. Ces financements ont représenté 46% de son investissement annuel en 2019. Est-ce que vous avez une idée du chiffre que
50%
en
2022.
Est-ce que cette part a vocation à augmenter encore dans les années qui viennent?
Alors, cette part, pour l'instant, notre objectif est de 50% des financements. Donc, c'est un élément qui soit en faveur de la transition écologique, énergétique. C'est déjà un élément très important d'avoir la moitié des projets. Et il y a un élément nouveau depuis cette année qui est que tous nos projets doivent être compatibles avec l'accord de Paris. Et donc ça, c'est une contrainte qui est vraiment... Il faut qu'on montre et qu'on analyse chacun des projets pour vérifier que c'est compatible avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc c'est un élément supplémentaire qui détermine ce qu'on finance ou ce qu'on ne finance pas.
Mais ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que vous refusez de financer des projets énergétiques dès que ce sont des énergies à forte émission de carbone, par exemple, à pétrole.
Alors, on finance plus, par exemple, de projets d'exploration de gaz upstream. Donc, tout ce qui va être développement d'exploration de gisements de gaz, etc., exploitation de gisements de gaz.
Mais du transport de gaz, par exemple.
Par contre, ce qui peut. L'accord de Paris, c'est pas forcément plus. Il y a une trajectoire. On ne dit pas aujourd'hui qu'il faut être dans l'accord de Paris. Parce que sinon, on n'aurait plus de sujet, déjà. Mais c'est donc d'être sûr que les investissements qu'on fait sont compatibles avec cette trajectoire de réduction. Donc, on va regarder, par exemple, comment ils s'inscrivent dans la stratégie du pays pour réduire et arriver à zéro émission de carbone en 2050. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, il y a des éléments d'appréciation. Mais on est très restrictif dans ce qu'on fait en matière d'énergie fossile. Donc, comme je disais, plus d'exploration. Il peut y avoir on peut quand même financer des projets de gaz, si pareil, ou de gaz, par exemple, si on arrive à montrer qu'on n'aura pas des actifs qui seront inutilisables. Et donc, il peut y avoir, par exemple, une conversion vers l'hydrogène vert dans un délai d'ici 2050, qu'il peut y avoir des mécanismes de compensation. Donc, c'est vraiment regarder ça dans une stratégie globale et pas simplement...
Vous financez des projets dans le nucléaire, par exemple ? C'est possible ?
Non, alors on finance des projets de sécurité.
On
finance pas de nouveaux projets nucléaires. On a financé des projets dans la sécurité nucléaire. On a, par exemple, fait le... Alors, c'est un cas particulier très, très exceptionnel, mais le sarcophage de Tchernobyl. C'est la Berne qui a géré l'ensemble des fonds et qui a géré le projet.
Vous parliez d'hydrogène vert, Odile Renaud-Bassot. L'Union européenne va lancer cette année une banque de l'hydrogène, une structure destinée à soutenir le développement de cet hydrogène vert. C'est ce qu'a annoncé la Commission européenne il y a quelques jours. Cette banque, c'est une concurrente pour vous ou une partenaire ?
Alors, ce n'est pas vraiment une banque. Ça s'appelle une banque, mais je crois que c'est plus un mécanisme de soutien à l'hydrogène vert qu'une banque.
En tout cas, c'est un mécanisme de financement.
Mais c'est plutôt un partenaire, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur l'hydrogène vert, et notamment dans nos pays d'opération qui ont des potentiels très importants de renouvelables. Par exemple, quand vous pensez au cas de l'Égypte, du Maroc, mais aussi des pays d'Asie centrale, c'est des pays pour lesquels renouvelables est une capacité de renouvelable qui est extrêmement forte. Il y a des territoires de désert importants, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, etc. Et du coup, ça donne un potentiel très important en matière d'hydrogène vert, parce que pour faire de l'hydrogène vert, il faut beaucoup de renouvelables. C'est encore exploratoire, parce que l'hydrogène vert, c'est encore coûteux, mais on développe des projets pilotes pour voir comment intégrer ça, notamment qu'il y a une filière phosphate importante, par exemple.
Au-delà de l'environnement, quels sont les secteurs dans lesquels la Berne investit le plus, qu'elle soutient le plus ?
Alors, on a trois grandes priorités stratégiques horizontales. C'est l'environnement, la digitalisation et inclusion, notamment la question du genre et de l'inclusion des femmes dans la société. Donc ça, c'est des thématiques générales. Après, on intervient par secteur dans le secteur de l'énergie, beaucoup, et du développement des énergies renouvelables, etc., mais aussi secteur industriel, agriculture, agroalimentaire, etc., et le secteur financier.
Les femmes, puisque vous en parlez, vous êtes la première femme à diriger la Berne. Vous étiez la première femme à diriger le Trésor en France. Est-ce que vous êtes un modèle, une pionnière pour les femmes qui travaillent comme vous dans le secteur financier, dans le secteur bancaire ?
Je ne sais pas, un modèle, je ne sais pas, une pionnière peut-être, parce que effectivement, je pense que c'est important, c'est des façons de montrer qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on peut...
Vous sentez une responsabilité particulière sur ce plan-là ?
Ben, je pense que c'est important de montrer que c'est possible, en ayant une famille, etc., donc en ayant une vie normale, d'une certaine façon. Et je pense que c'est important dans les institutions, quand on est dans une position comme ça de direction, de aussi promouvoir les femmes dans les institutions et de s'assurer que ce qu'on fait, en tant que, notamment comme banque de développement, est cohérent avec cet objectif.
Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans le secteur financier ?
Ça progresse. On a quand même sur le plan international, on a quand même une directrice générale du FMI, une présidente de la BCE, plus de femmes dans les conseils d'administration des banques, etc. Il y a encore du progrès à faire, il y a du chemin, mais il y a du progrès.
Un portrait du monde, vous décrivez il y a quelques années comme discrètement féministe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette expression ?
Ça veut dire que je n'en fais pas un thème dont je parle tous les jours, etc. Mais que ça me paraît assez naturel. Voilà, je prends ça de façon assez naturelle. Ça me paraît normal que les femmes accèdent à des postes de direction, que les femmes travaillent, et qu'il n'y ait pas de différence homme-femme dans la gestion des cadres professionnels et dans l'organisation de la vie concrète aussi.
On a le sentiment que le continent européen est quand même très en pointe sur le sujet. On voit Christine Lagarde à la BCE, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, vous-même à la Bird. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt ou ça progresse de façon générale en Europe, effectivement, de façon satisfaisante ? Enfin, l'arbre, les arbres.
Ça progresse, ça pourrait progresser plus vite. On voit plus de femmes ministres des Finances, par exemple. Vous avez Nadia Calviño en Espagne. Il y a pas mal de femmes premières ministres dans les pays du Nord. On voit quand même, moi je trouve, plus de femmes. On voit Janet Yellen au Trésor américain. Donc en politique aussi, en Europe, quand même un peu plus de femmes. Mais ça reste un sujet extrêmement important dans un certain nombre de pays dans lesquels on intervient. Une des exemples de ce qu'on peut faire, que je prends toujours, c'est le fait que, par exemple, au Kazakhstan, on a convaincu le gouvernement de supprimer toutes les réglementations, toutes les législations qui interdisaient certaines professions aux femmes. Et il y en avait encore plus d'une cinquantaine. Donc voilà, c'est le type d'action qu'on peut mener. Et on cherche toujours, en tant que banque, à convaincre nos clients que c'est dans leur intérêt et à lier nos financements à des mesures concrètes pour les femmes, que ce soit en termes de formation, d'accès aux fonctions de direction, etc.
Et ils vous suivent facilement ?
Et ils nous suivent. On a plus de 35% des projets dans lesquels on a une composante d'inclusion. Alors souvent sur les femmes, justement, pour les axes, parce qu'on est dans des pays où ça reste un sujet souvent très important.
Vous avez travaillé, il nous reste une minute, vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre en France. Vous étiez la directrice adjointe de son cabinet. Est-ce que vous pourriez vous lancer en politique si on vous le proposait?
Non, je ne crois pas.
Vous avez déjà eu des propositions, parce qu'on sait que les
gouvernements français... J'ai jamais cherché.
Alors peut-être que vous n'avez jamais cherché, mais est-ce qu'on est venu vous chercher?
Non. Bon. Non, et j'ai jamais. Mais je pense aussi, parce que cette fois, je ne cherche pas.
Merci beaucoup. Merci Odile Renaud-Basso, présidente de la BER, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous, Philippe Ricard, du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.